7h29 minutes. On parlait il y a quelques minutes à peine avec Bernard Drainville de la course au leadership du Parti libéral qui est déjà lancée, même si officiellement le prochain chef sera choisi peut-être en 2019, fin 2019, 2020. Et nous en parlons avec Alexandre Taillefer qui a présidé la campagne du Parti libéral. M. Taillefer, bonjour.
Bonjour, M. Arcan.
C'est vrai quand même qu'une course au leadership s'est souvent déclenchée officieusement le lendemain du départ du chef. Là. On est là-dedans, même si le scrutin comme tel, c'est dans 18 mois ou 2 ans.
Écoutez, vous connaissez mon historique politique. J'ai pas cette expérience-là. Mais je vous dirais une chose, c'est que de partir une course au leadership en ce moment, c'est une mauvaise idée. On a tout un travail aujourd'hui de refonte. C'est pas des termes creux. On a un très, très gros travail, un examen de conscience à faire. Et ce travail-là se fera pas en 3 mois, en 6 mois. Ce que j'ai dit dans le passé demeure. Si le travail de fond ne se fait pas, je sauterai pas dans la course. Le travail de 2 ans-là va devoir être complété et par la suite, on pourra déterminer.
Mais est-ce que les deux peuvent pas se faire en parallèle? C'est-à-dire d'un côté, faire la réflexion puis voir quelles ont été les erreurs puis comment repositionner le Parti libéral tout en regardant qui sont les gens qui peuvent nous appuyer?
Je pense que c'est de mettre la charrue devant les bœufs. Si on ne fait pas ce travail de fond-là, si on ne détermine pas tous ensemble, en travaillant avec les militants, les militantes, en travaillant à la base ce que le Parti libéral doit devenir, comment est-ce que le Parti peut évoluer, j'ai l'impression qu'on peut mettre un chef qui incarnera pas ce nouveau programme-là.
Alors, c'est important. Donc, vous ne ferez pas les deux en parallèle, la réflexion et la sollicitation.
Vous ne me verrez pas aller solliciter des appuis chez le parti avant que ce travail-là soit complété.
Souhaitez-vous avoir un poste élu quelque part dans le parti?
Non. Donc, je vais jouer le rôle de militant, ayant eu naturellement une position particulière parce que j'ai été président de la campagne et j'ai eu des accès privilégiés au sein du parti. J'ai pu poser parallèlement à la campagne des diagnostics, mais non, je ne solliciterai pas de rôle permanent ou de rôle spécifique.
Drainville disait tantôt que des gens qui placotent, bien sûr, là, c'est toujours comme ça, là. Qui disent, mais pourquoi on confierait le leadership de notre parti à celui qui a présidé la pire défaite électorale?
Oui, mais écoutez, je pense qu'aujourd'hui, tous les candidats qui sont autour de la table sont des gens qui étaient dans le gouvernement des 4 dernières années. Je pense pas que ça justifie que des gens puissent pas être président du parti. Mais franchement, je suis pas là ce matin pour me vendre. Ce qui est important, c'est, et ça se fera éventuellement plus tard, mais ce qui est important ce matin, c'est de dire on a tout un travail à faire et remontons-nous les manches.
Justement, quand vous dites, puis là, je vais essayer de synthétiser, là. Il faut revenir un peu à ce que déjà été le Parti libéral, donc renouveler les valeurs. D'abord, comprendre ce qui s'est passé le jour d'élection, puis le constat que les Québécois en ont fait. Puis quand vous dites se reconnecter avec l'électorat, puis on pense particulièrement avec l'électorat francophone, vous voulez dire quoi exactement?
Écoutez, quand on regarde les résultats que l'on a eus, on a été 4e dans de nombreux comtés. Il y a une déconnexion qui existe aujourd'hui, il faut le réaliser, entre l'électorat francophone et le Parti libéral. Et pour moi, aujourd'hui, c'est un non-sens. Quand on regarde historiquement le rôle que le Parti libéral a fait dans la défense de la culture, dans la défense du français, dans le nationalisme économique, c'est fantastique. Et tous ces atouts-là, il faut les mettre en valeur, il faut continuer à les promouvoir, mais il faut faire porter un diagnostic. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire pour que le parti retrouve ce vernis auprès des francophones?
Mais là, vous me dites d'un côté, le Parti libéral a fait de grandes choses. Vous parliez de nationalisme économique et tout ça. Puis en même temps, les Québécois ont rejeté ça. C'est que le message n'a pas passé. C'est que, par exemple, sur des questions identitaires, la position du Parti libéral ne colle pas avec l'opinion publique, c'est quoi?
Écoutez, vous dites on a rejeté le nationalisme économique. Je pense que quand les gens regardent ce qui a été développé depuis les 30, 40 dernières années, les 50 dernières années au Parti libéral, force est d'admettre que on a un bilan absolument incroyable. On est un gouvernement pro-Québec. On a un gouvernement qui a défendu historiquement les intérêts des francophones, les intérêts économiques du Québec. Et aujourd'hui, ce message là, mal passé. Maintenant, le résultat, je pense...
Mais par exemple, le fait, là, puis c'est pas moi qui le dis, c'est Pierre Fortin, l'économiste, qu'on se retrouve, par exemple, quand on regarde le bilan, là, avec les 3 premières années où on va chercher des milliards, soit par des tarifs supplémentaires et aussi donc par un ralentissement des dépenses, les gens ont vu dans les écoles, dans les hôpitaux du Québec, qu'il y avait des services qui étaient coupés, donc une réduction de la qualité des services, ce qu'on a appelé l'austérité, puis qu'après ça, on nous arrive avec des milliards à lancer, ça fait pas bébé crédible.
Écoutez, je pense que l'austérité est un des éléments fondamentaux qui a fait que les Québécois ont voulu du changement à la base. Les Québécois, les Québécoises ont voulu du changement et on en subit aujourd'hui les conséquences, bien entendu. Et il y a d'autres aspects, je pense, qu'il faut qu'on regarde. Mais la question de l'austérité est fondamentale dans le rejet du parti. Maintenant, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'en 2014, quand l'élection a eu lieu, il n'y a pas un des trois partis qui n'a pas mentionné à ce moment-là sa volonté de revenir à l'équilibre budgétaire. Et effectivement, ça a été réalisé de main de maître. Maintenant, quand on se lance dans des coupures ou disons un frein aux dépenses, il y a plusieurs façons de le faire. Il y a des façons qui sont difficiles politiques où on identifie clairement dans quel secteur est-ce qu'on va diminuer ou on le fait en donnant la responsabilité à d'innombrables organismes en faisant des coupes qu'on appelle paramétriques. Moi, j'ai subi ça comme président du conseil d'administration du Musée d'art contemporain de Montréal et j'ai très bien vu comment est-ce que les diminutions de dépenses étaient demandées par le gouvernement. Alors ça, c'est très important de comprendre comment ça a été fait et comment est-ce qu'on aurait pu mieux communiquer et s'assurer que ça ne touche pas des programmes qui ont un impact sur la vie des gens. Et ça, c'est très important.
Dernier point sur ces questions-là. Tantôt, vous parliez du nationalisme économique. Moi, je vais vous parler du nationalisme tout court, là. On a senti le Parti libéral, là, des dernières années, d'un parti évidemment fédéraliste, d'un parti plus multiculturel, favorable à des niveaux élevés d'immigration, contre ce qu'on a appelé les questions identitaires, les signes religieux. Est-ce que ça, il faut remettre ça en question ou pour vous, ce sont des valeurs libérales fondamentales?
Écoutez, moi, je me dissocie complètement du multiculturalisme à la Trudeau. C'est-à-dire où il n'y a pas une culture dominante. On est un peuple québécois. Le Québec est une nation francophone et c'est très important de défendre ça. Et je pense que l'ensemble des anglophones et des allophones, du moins la grande majorité aujourd'hui, partagent ce constat-là. C'est-à-dire qu'on est dans une société extraordinaire où il fait bon vivre, où il y a une créativité. Et ça, c'est dû, entre autres, parce qu'on est un peuple francophone. Alors, il faut défendre à tout prix ce volet-là et il faut, je pense, s'assurer qu'on ne devienne pas une société multiculturelle, qu'on développe une société intraculturelle où il y a une culture dominante et cette culture-là, c'est le français, c'est très clair.
OK, là, il faut que je vous parle de Théo. Est-ce que Théo fait de l'argent?
Aujourd'hui, on n'est pas encore dans une situation où on est profitable. Les taux d'occupation continuent à augmenter. On a des enjeux tant au niveau du recrutement, le nombre de permis. C'est un projet extrêmement compliqué, mais c'est un projet qui s'améliore de mois en mois.
Ce que j'ai compris, là, c'est que vos partenaires ont encore une fois réinvesti dans l'entreprise.
Exactement. Donc, ils ont réinvesti de l'équité. Donc, ils sont devenus aujourd'hui actionnaires en mettant de l'argent. Ils ont des rangs préférentiels, c'est-à-dire que cet argent-là passe avant l'autre argent qui est rentré précédemment avec des retours qui sont garantis. Donc, c'est une situation qui est complexe. C'est une situation qui est normale pour une entreprise qui est en fort développement. Et donc, il n'y a rien d'anormal aujourd'hui dans cette entreprise.
Mais est-ce que vous voyez la rentabilité pour bientôt ou si ça ne serait pas impossible qu'encore une fois, les partenaires soient obligés de réinvestir à nouveau? Est-ce que c'est la dernière fois, selon vous?
Et franchement, si demain matin, on prend la décision de rajouter 150 voitures, vous savez combien coûte 150 voitures. Alors, ça nécessite toujours de l'équité. Tant qu'on ne génère pas aujourd'hui suffisamment de profits pour pouvoir mettre en place un financement bancaire, ça nécessite de l'équité. Cette entreprise-là, aujourd'hui, c'est une entreprise qui doit faire pas loin de 40, 50 millions de chiffre d'affaires. On emploie 700 personnes. C'est une grosse entreprise. C'est une entreprise qui a connu un succès incroyable. On a beaucoup plus de demandes qu'on est en mesure de la servir, mais c'est un casse-tête d'un point de vue opérationnel, bien entendu. Alors, il faut voir ça comme...
Mais ça vous prend quoi? Plus de voitures, plus de chauffeurs, donc plus de permis?
Plus de voitures, plus de chauffeurs, plus de permis. Les permis sont pas un enjeu. On est en mesure aujourd'hui de les louer. On les a pas achetés, mais c'est un dossier qui est très complexe. Je vous le cacherai pas.
Avez-vous un horizon? Ce que vous dites, là, on est en octobre. Il faut que, je sais pas moi, au printemps 2019, ça soit rentable.
Je pense que c'est davantage de voir les signes vitaux de l'entreprise qui continuent à s'améliorer. Si demain matin, on réussit à augmenter nos revenus horaires, on continue à gagner des parts de marché, on continue à développer une clientèle, les gens vont être encouragés, les investisseurs vont être encouragés puis vont continuer à soutenir cette entreprise-là. Vous savez, on parle souvent de Uber qui est un exemple. Les gens disent, oui, mais le darwinisme, Tayou aurait jamais dû exister. Uber perd 2,5-3 milliards de dollars par année, a jamais été profitable et ils ont aucune infrastructure. Nous, on a nos propres infrastructures, on a nos taxis, on est une entreprise extrêmement innovatrice et je pense que ça, c'est un des enjeux au Québec. Il faut qu'on soutienne nos entreprises, des entrepreneurs qui ont des idées, qui sont en mesure de se positionner, qui sont en mesure de conserver des propriétés ici. Et c'est important que la population comprenne que l'entrepreneuriat, c'est ce qui va nous permettre de payer nos filets sociaux.
OK. Dernière question là-dessus. Est-ce que vous en perdez moins? Autrement dit, est-ce que ça s'améliore?
Absolument.
Pertes sont moins importantes qu'avant.
Les pertes sont moins importantes qu'avant. Donc, le bilan s'améliore, les taux d'occupation de nos taxis s'améliorent, le nombre de chauffeurs qui sont chez nous s'améliorent. Donc aujourd'hui, les signes vitaux sont positifs. Si on s'était retrouvé dans une situation où l'entreprise dégénérait, vous savez ce qui se serait passé. On aurait pu débrancher, mais on n'est pas du tout dans cette situation-là.
Monsieur Taillefer, merci d'être venu ce matin.
Merci.
Alexandre Taillefer, 7h40.